Les matins débutent avec le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Pour Édouard Philippe, l'enjeu n'est pas de faire une loi sur les accompagnants scolaires. Le chef du gouvernement a tenté hier de clore la polémique sur le port du voile par les mères de famille pendant les sorties.
C'est un spray nasal qui peut sauver des vies en cas d'overdose. Le Naxolone n'est toujours pas vendu en pharmacie. France Culture a rencontré une association scandalisée.
Le vice-président des États-Unis rencontrera le président turc. Demain, Erdogan refuse de déclarer un cessez-le-feu, une semaine après le début de son offensive contre des Kurdes en Syrie. Et après ce journal, la question du jour, Guillaume.
Eh bien, vous qui prenez votre petit déjeuner, le Nutri-Score peut-il vous aider? L'étiquetage Nutri-Score a-t-il changé nos habitudes alimentaires? On posera la question à une médecin nutritionniste, Chantal Julia.
On nous aime bien qu'on doit faire le couscous ou les gâteaux. Moi, ça fait 16 ans que je suis déléguée des parents d'élèves dans les écoles. Ça a commencé la maternelle, les écoles primaires et le collège maintenant. Pourquoi nous interdire de travailler en tant que voilée? Il y a beaucoup d'interdits. Et là, ils s'attaquent aux mamans qui accompagnent. La laïcité dit qu'on est libre d'appartenir à la religion qu'on veut. Là, je crois que c'est cette liberté-là qu'on va nous enlever.
Le témoignage de Swad, 48 ans, une mère d'élève rencontrée à Argenteuil par Wafia Kenich et qui s'inquiète de cette polémique sur le port du voile par des mères de famille accompagnant les enfants en sortie scolaire. Elle a commencé vendredi dernier quand, lors d'une séance du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, un élu Rassemblement national a pris à partie une femme voilée installée dans la tribune des visiteurs avec une classe. Hier, le chef du gouvernement, Édouard Philippe, l'a assuré à l'Assemblée nationale, il n'y aura pas de loi pour interdire le port du voile pendant ses sorties scolaires, Stéphane Robert.
La question du port du voile lors des sorties scolaires par les mères de famille accompagnatrices s'est encore une fois invitée dans l'hémicycle de l'Assemblée, divisant la majorité et réveillant les ardeurs de l'opposition, ce qui a poussé le Premier ministre Édouard Philippe à mettre les choses au point hier après-midi.
Je ne pense pas que l'enjeu aujourd'hui, ce soit de faire une loi sur les accompagnants scolaires.
Le débat est né d'une prise de position de la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, dimanche, sur France 3.
Je n'ai pas de difficulté à ce qu'une femme voilée participe à une sortie scolaire.
Tandis que pratiquement au même moment, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, sur BFM TV, déclarait ceci.
Le voile en soi n'est pas souhaitable dans notre société, tout simplement. C'est pas quelque chose à encourager.
Les propos du ministre apportent de la confusion, a estimé le député La République En Marche du Val-d'Oise, Aurélien Taché, relançant un débat qui avait déjà agité la majorité en février dernier. À l'époque, l'Assemblée nationale examinait le projet de loi Blanquer baptisé « Pour une école de la confiance » et le ministre avait proposé de voter un amendement du député Les Républicains Éric Ciotti qui interdisait précisément le port du voile par les mères de famille lors des sorties scolaires. Branle-bas de combat dans les rangs de la majorité qui déjà s'était divisée entre les pour et les contre. Le sujet réactive une forme de clivage entre la droite et la gauche au sein même de La République En Marche, à l'image de ce qu'a généré plus globalement le débat sur l'immigration, récemment relancé par Emmanuel Macron.
Et hier à Creil, dans l'Oise, deux accompagnatrices qui portaient le voile se sont vues refuser l'accès à la caserne de pompiers qu'elles venaient visiter avec des élèves. L'officier pensait bien faire, c'est une erreur d'interprétation, a déclaré le président du SDIS. Rappelons qu'en 2013, le Conseil d'État a estimé que ces accompagnatrices ne sont pas soumises aux exigences de neutralité religieuse. Des associations de malades interpellent les autorités sanitaires pour demander la commercialisation de la naloxone. France Culture vous le révèle ce matin, la naloxone est un antidote aux overdoses, notamment d'héroïne et de morphine. Il existe sous la forme d'un spray nasal depuis plus de 3 ans, mais n'est toujours pas vendu en officine parce que le comité d'évaluation des produits de santé n'arrive pas à fixer un prix qui paraisse raisonnable aux fabricants. En attendant, 20 000 kits dorment dans un laboratoire pharmaceutique. Béchir Bouderbala, directeur des affaires publiques de l'association L630, déplore la lenteur du processus.
On a 400 morts environ liées aux overdoses aux opioïdes chaque année. Les deux tiers sont des personnes qui consomment des opioïdes pour des raisons de lutte contre la douleur, pour des raisons antalgiques. Donc si vous voulez, c'est pas forcément le junkie ou l'héroïnomane sur lequel on va utiliser l'analoxone. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que l'analoxone aujourd'hui, ça doit être considéré comme un traitement d'urgence, comme le défibrillateur. Et en effet, un défibrillateur, ça peut être dangereux. Mais l'idée, c'est justement d'en avoir le maximum parce que, surtout, ça peut sauver des vies. Le spray nasal aujourd'hui a une autorisation de mise sur le marché qui a été obtenue en janvier 2018. Donc, on l'a autorisé de manière quasi dérogatoire, malheureusement, auprès des hôpitaux, des centres de prise en charge des usagers de drogue. En revanche, en pharmacie de ville, ça bloque. Donc c'est un peu le dernier échelon de la mise, la commercialisation du médicament. Le comité d'évaluation des produits de santé bloque. Vu que les négociations ne sont pas rendues publiques, les patients, les professionnels n'ont pas accès à ces informations-là. Mais ce qu'on a entendu, c'est qu'aujourd'hui, ça bloquait du fait du prix. Parce que le kit à 35 euros, si 200 000 kits devaient être recommandés, ça représenterait un coût important en termes de santé publique. Et nous, ce qu'on pose comme question, justement, c'est quel est le coût de la vie d'une personne qui meurt d'overdose ? Aujourd'hui, on a 400 morts du cancer de la thyroïde. Sur le sida comme sur la thyroïde, et c'est tout l'honneur de notre pays, on met des budgets faramineux. Sur la question de la prévention des overdoses, le budget est quasi inexistant. Et donc, si vous voulez, ce qu'on se pose comme question aujourd'hui, c'est est-ce que la mort de quelqu'un par overdose vaut celle d'une victime du sida ou d'un malade du cancer de la thyroïde.
Béchir Bouderbala de L630 qui prône une réforme des politiques publiques des drogues. Entre 5 et 10 000 pompiers professionnels ont manifesté hier à Paris d'après les syndicats. Ils dénonçaient le manque d'effectifs, le manque de reconnaissance également d'une profession qui s'estime livrée à elle-même face à l'explosion des demandes de secours. D'après le ministère de l'Intérieur, 3 policiers ont été blessés et 6 personnes interpellées.
7h06 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. Le président turc refuse de déclarer un cessez-le-feu.
Cela fait maintenant une semaine qu'a commencé l'offensive turque contre les forces kurdes en Syrie, condamnée par une grande partie de la communauté internationale. Mais le président Recep Tayyip Erdogan est clair, nous ne sommes pas préoccupés, dit-il, par les sanctions américaines imposées lundi par Washington et qui visent 3 ministres turcs. Alors pour tenter de le convaincre, le vice-président des États-Unis Mike Pence fera le déplacement à Ankara. Il est attendu sur place demain, Grégory Phillips.
Mike Pence, dont c'est la première visite officielle en Turquie, est accompagné du patron de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, et d'un responsable du département d'État qui connaît bien le pays. L'an passé, ce diplomate avait réussi à obtenir la libération d'un pasteur américain détenu pendant 2 ans dans une prison turque. Le vice-président des États-Unis va donc demander au président Erdogan qu'il signe un cessez-le-feu immédiat. Il rappellera aussi aux dirigeants turcs que la Maison-Blanche est prête à adopter des sanctions économiques sans précédent contre son pays s'il poursuit cette opération militaire. Pour Washington, obtenir un arrêt rapide des hostilités est une priorité car le millier de soldats américains déployés en Syrie a certes commencé à se retirer, mais il leur faudra des semaines pour quitter le pays et le Pentagone redoute des incidents. Enfin, pour démentir le fait que les Kurdes ont été abandonnés par les Américains, un responsable de ce même Pentagone expliquait hier soir de manière anonyme que son pays continuerait à coopérer avec les forces démocratiques de Syrie sous une forme qui reste à déterminer.
Et en une semaine, 71 civils, 158 combattants des forces démocratiques syriennes ainsi que 128 combattants pro-turcs ont été tués d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le président américain Donald Trump, pointé du doigt pour avoir donné un quasi-feu vert à cette opération militaire turque, est aussi vivement critiqué depuis l'ouverture d'une enquête en vue de le destituer. C'est ce qui a animé les échanges en début de soirée hier lors d'un débat dans l'Ohio. 12 candidats à l'investiture démocrate pour la présidentielle américaine se sont affrontés. Et puis, et c'est plus surprenant, la progressiste Elizabeth Warren, qui a depuis quelques semaines les faveurs des sondages, a été violemment interpellée par certains de ses adversaires, Loïc Loury.
Les démocrates sont tous d'accord, la procédure d'impeachment doit avancer. Une fois dit ça, les hostilités commencent et pour la première fois, c'est Elizabeth Warren qui a une cible dans le dos. Au moins, Bernie est honnête, s'est dit ainsi Amy Klobuchar, qui l'accuse d'être évasive et c'est vrai sur les impôts qu'elle compte mettre en place. Beto O'Rourke, lui, l'a décrit comme l'ennemi des riches. Parfois, j'ai l'impression que la sénatrice cherche plus à punir, à monter certaines parties du pays contre les autres plutôt que d'inspirer les gens, de les rassembler. Je n'ai pas de problème personnel avec les milliardaires, répond Elizabeth Warren, solide dans la tempête et qui déroule son message. Ma question, ce n'est pas pourquoi Bernie et moi sommes pour une taxe sur les grandes fortunes. Non, c'est pourquoi ici même tout le monde pense qu'il est plus important de protéger les milliardaires plutôt que d'investir sur la nouvelle génération. D'autant plus que ses deux plus gros adversaires, Joe Biden et Bernie Sanders, ne prennent pas ou peu part à la bagarre. Le premier reste discret, le second très à gauche ne daigne pas attaquer son amie Elizabeth Warren. La sénatrice ne sort pas franchement affaiblie. Du débat, elle aura même montré qu'elle savait se défendre, une qualité qui sera essentielle pour battre Donald Trump lors de la prochaine présidentielle.
Loïc Loury, correspondant de France Culture aux États-Unis. Des conteneurs en feu, des barricades et des policiers qui chargent. Les violences hier soir dans le centre de Barcelone étaient impressionnantes. Près de 40 000 manifestants se sont réunis pour le deuxième jour de suite. Quelques centaines seulement se sont opposés aux forces de l'ordre. Ils protestaient contre la condamnation des dirigeants séparatistes qui ont joué un rôle dans la tentative de sécession de la Catalogne en 2017. Nous y reviendrons dans le journal de 8 heures. La chef de l'exécutif hongkongais a été contrainte de s'arrêter ce matin pendant son discours de politique générale. Carrie Lam, chahutée par les parlementaires, devait annoncer des mesures économiques et sociales pour tenter de ramener le calme, regagner aussi la confiance de la population. Les Hongkongais sont mobilisés depuis plus de 4 mois pour réclamer plus de démocratie et ils dénoncent notamment les difficultés de logement. Les précisions de Dominique André.
Se loger, c'est le cauchemar de beaucoup de Hongkongais qui s'entassent dans des logements minuscules, très chers. Les jeunes sont particulièrement affectés, car sans logement, ils ont du mal à construire leur vie d'adulte. Un jeune Hongkongais.
Si tu achètes un appartement, tu vas payer 5 millions de dollars de Hong Kong. 580 000 euros pour un tout petit truc. Aucun espoir d'acheter, aucun espoir de se marier.
Sous la pression de Pékin, l'un des plus gros promoteurs immobiliers de Hong Kong a annoncé qu'il cédait 279 000 mètres carrés de ses terres agricoles pour le logement social. Le gouvernement local a trop tardé, confie un patron.
Je pense que le gouvernement n'a pas fait assez pour permettre l'accès à la propriété pour les jeunes et ceux qui ne peuvent pas acheter des appartements chers.
Dans la crise politique que connaît Hong Kong, ce mécontentement social ne doit pas être sous-estimé, analyse l'économiste Jean-François Huchet.
Il y a aussi des revendications par rapport à la grosse fracture sociale d'un système qui est quand même fondé sur les grandes familles qui contrôlent le foncier, qui contrôlent l'immobilier. Tout ça a été dénoncé depuis très très longtemps, sauf qu'aujourd'hui ça s'exprime effectivement de manière assez violente.
À l'immobilier, l'un des plus chers au monde, s'ajoute l'effondrement du commerce depuis le début de la crise. Des licenciements, prévoit un expert, vont arriver dans les mois à venir.
Dominique André. De la Bretagne à la frontière belge, il fera gris et souvent pluvieux. Aujourd'hui, le vent de sud-ouest souffle assez fort, jusqu'à 70 km/h en rafale, 80 près de l'océan et de la Manche. Dans le reste de la France, le ciel alternera entre soleil et nuages. Le thermomètre affiche entre 5 et 11 degrés ce matin sur une grande partie de la France. Cet après-midi, vous n'aurez pas plus de 15 degrés à Lille et Paris, 18 à Bordeaux, 21 à Nice et 22 à Ajaccio.